d'abord pour apprendre à la déterminer exactement, et surtout pour savoir comment ne pas confondre les facteurs en jeu. Car toute crise suppose la mise en jeu de tout système. On peut dire que dans certains cas, il y a certains acteurs dans le thème, puisque nos astres sont des acteurs et des personnages, chacun ayant son rôle. On peut dire que certains personnages ont une façon désespérée d'être fort discrets au moment d'une crise et de se retirer de l'avant-scène, nous laissant complètement dans le pétrin. Or, le fait que l'astre ne vient pas à notre secours, n'est-ce pas ? Qu'il n'est pas là au milieu de la crise comme un gendarme et qu'il nous laisse complètement être volés, mais ça aussi a une raison. Il y a aussi une raison très sérieuse, très évidente à ça. Ça, ce n'est qu'un aspect de l'analyse d'une crise. La grosse affaire dans la crise, c'est de savoir déterminer les facteurs, ils sont toujours pluriels, qui amènent cette crise, en partant de l'horoscope de base. Alors, quand on aura les équations, il faut employer ce mot, nous sommes dans une mathématique de l'âme, nous aurons la géométrisation exacte de la crise, comme de sa durée. L'ordre de temps de sa durée, si elle dure 3 mois, 3 semaines ou 3 ans. Eh bien, lorsque nous avons ça, nous avons une satisfaction tout à fait intime. C'est la satisfaction d'y voir clair, de vraiment voir clair, et de savoir pourquoi nous sommes au monde et pourquoi ces choses-là. De voir quelque chose, de lever le voile, lever le rideau, du mystère du destin vis-à-vis de l'individu. Chaque individu entretient un dialogue avec l'univers lui-même, par-delà tous les hommes et par-delà toutes les choses. Il entretient un dialogue et il ne sait pas très bien. Il croit savoir les paroles qu'il va dire dans son dialogue à lui. Ça fait partie du dialogue. Mais il ne sait pas ce qu'il y a dans le rôle du destin vis-à-vis de lui. Et c'est là le mystère. L'astrologie va nous dire un peu quelle sera la partie du dialogue du personnage que nous appelons ici le destin. Toujours est-il que plusieurs fois dans ma vie, j'ai pu apprécier cette science particulièrement dans mon désir ardent d'être absolument objectif avec moi-même et de connaître, de pouvoir filer les affluents d'un certain fleuve dans ma personne, de pouvoir détecter les affluents différents qui pesaient la masse, le volume de l'eau et sa rapidité, de façon à ce que je ne donnât pas à un événement, même à un événement purement spirituel, un autre nom que son nom propre. Et quand même, je ne crois pas l'avoir dit ici, mais je vous donne un tout petit exemple pour ceux d'entre vous qui travaillent vraiment l'astrologie comme si c'était une gestion de vie et de mort pour eux de comprendre ces choses. Ceux qui sont arrivés à avoir le feu sacré à ce point-là, eh bien, pour ceux qui savent à quel point ça leur apporte des lumières et que tout le reste des ténèbres sont ça, ils seront intéressés par une petite expérience que j'ai faite il y a quelques semaines, il y a peu rarement maintenant, le temps va si vite, deux mois en tout cas. Eh bien, c'est la suivante. Je me lève un matin et je me dis, tiens, mais c'est curieux, ma tête est particulièrement claire aujourd'hui. Et puis, j'ai pas l'envie de lire rien du tout. Mais j'ai envie de barbificoter avec un crayon et du papier. Et puis je suis là, et puis, oui, alors tout d'un coup vient dans mon esprit, ah, de nouveau, Uranus. J'avais donné beaucoup d'attention durant l'été. Ah, maintenant je le reprends, voyons, Uranus. Maintenant Uranus, et puis j'en fais des diagrammes, un peu comme ça.
Et puis tout à coup,
ah, mais maintenant je veux le rapport exact entre Mercure-Uranus, 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 et puis les relations mathématiques entre les deux, les proportions, et puis l'action de l'un sur l'autre, mais surtout les proportions, comment l'un mène à l'autre. Et me voilà, faisant un Mercure, son diagramme, en face de un diagramme d'Uranus. Et je me dis, mais c'était pas de sens, c'est très vivant cette histoire-là, ça marche bien. Mais après, dans la journée, je me dis, mais dis donc, est-ce que ça t'est venu ce matin, cette histoire-là? Pourquoi est-ce que c'était si vivant ce matin? Il y avait comme un courant dans la colonne vertébrale. Mais pourquoi ça? Au fond, tu le sais bien, ça, déjà. Ça ne t'apprend rien de bien neuf. Ah, quelque chose me dit, si, c'était... On peut toujours creuser et découvrir des choses encore plus étonnantes chaque fois. Oui, mais je me suis dit, ça, c'est pas un accident. Allons voir l'éphéméride. Eh bien, l'éphéméride me disait ceci. Mercure dans la balance, conjoint dans cette même nuit, mon Uranus progressait dans la balance. Et venant de quelques heures auparavant, Mercure a l'envie, par le transit dans la balance, d'avoir conjoint mon Uranus natal en maison 8. Alors vous comprenez, voilà l'Uranus et le Mercure qui s'inscrivaient dans le plan du conscient directement sur une feuille de papier entre 8 et 9 heures du matin. Et alors, je me pouvais me dire cette question. Je me suis souvent posé cette question. Souvent dans mes recherches, et vous aussi dans vos recherches. Est-ce que je vois juste? Est-ce que je ne me fiche pas dedans? On peut s'égarer avec beaucoup de méthodes, n'est-ce pas? Avec beaucoup de conscience. Est-ce que la prémisse est juste? Peu de fois, je me pose cette question. Mais pourquoi est-ce que cette idée est tout d'un coup monte dans la tête comme ça? Et puis qu'elle me paraît logique. Et qu'elle m'impose de lui donner de l'attention. Au bout d'un moment, souvent, je me dis, oui, ben donne-lui de l'attention, tu verras bien où la chatte va loquer, et il y aura un moment donné où tu la mettras au panier, ton idée. Alors, il y a des fois que je ne la mets pas du tout au panier, et au contraire, la vie monte en moi. Alors, c'est très précieux à ce moment-là de se dire, enfin, comme ce n'est pas un accident, comme tu n'as pas eu la berlue, tu n'es pas donné à des fantaisies, tu n'as pas dû non plus à une hypertension artérielle, ou que sais-je encore, ou trop de boissons, d'ailleurs je ne bois pas. Enfin bref, ce n'est pas dû à des facteurs physiologiques. Il faut voir dans les transits du moment, c'est surtout là qu'on va voir l'affaire. Et alors, généralement, je voyais le transit qui avait apporté l'échéance physique. Donc ça me rassurait. D'ailleurs, il y a une autre façon d'être rassuré, ainsi d'avant. C'est que quand une idée que vous croyez très importante vous trotte dans la tête, elle a l'air de se balancer devant vous de manière à ce que vous ne puissiez pas lui échapper, faites dedans un thème horaire. Faites le thème horaire de l'idée et posez la question au thème horaire, parce que cherchez le moment où l'idée est née. Par exemple, l'idée est née maintenant à 9h24. Et elle est née à Paris à 9h24. Faites le thème de naissance de 9h24, un thème de naissance, une idée est comme un poupon, c'est comme un gosse qui sort du sein de sa mère, elle est née cette idée, elle a la même loi, la même vitalité et le même cheminement qu'un être humain. Alors vous prenez l'heure de naissance de l'idée exacte, alors il ne faut pas vous pécher le vent, n'est-ce pas, il faut que ce soit... Bien, à cette heure-là, que de fois dans mon automobile, tout d'un coup en Californie, roule tranquillement dans la campagne, je dis, oh là 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 là, quelle idée, oh là là, quelle idée, tiens-toi bien. Et puis, alors, machinalement, faire le geste de regarder l'heure, faire le geste de regarder l'heure. Et puis après, continue, cette idée me plaît. Alors après, je rentre chez moi, je dis, tiens, cette idée, elle est née exactement à telle heure. Maintenant, il faudrait faire un thème horaire pour savoir, est-ce que cette idée est viable. Voilà toute la question qu'on a bébé. Est-ce qu'il est viable? Si elle est viable, c'est qu'elle a une part de rectitude. Une part, tout au moins, de rectitude. Elle s'embranche sur quelque chose de vrai, ou elle vient de quelque chose de vrai, et elle n'est pas fausse en elle-même. Enfin, le thème horaire le dira, si l'on sait faire des thèmes horaires. C'est une partie de l'astrologie qui est absolument fascinante, mais dangereuse, parce que, précisément, pour cela, elle est rarement vraiment faite, sérieusement, mais elle est fascinante, mais dangereuse, parce qu'il s'agit d'être extrêmement objectif, et en, pour tout dire, extrêmement contestable. Voilà. Voilà pour ce qui c'est de l'inspiration. Vous imaginez les inventeurs, les créateurs, les gens qui font de la peinture, par exemple, c'est une forme de la création, tout d'un coup se dire un matin, oui, mais il y a cette idée qui me monte en moi, j'ai envie de faire ça comme ça. Généralement, naturellement, l'artiste, par définition, est, et se sent le besoin de s'abandonner au courant de l'inspiration. Et il trouverait une profanation, il aurait une sainte horreur d'aller faire la géographie et du calcul autour de sa sacro-sainte inspiration, son coupon, c'est son coupon, et il n'y aura pas de marraine en uniforme cinglée et aux sourcils fronçants qui vont avoir un manier ce gosse, n'est-ce pas? C'est propre à la nature de l'artiste. C'est magnifique de voir comment l'artiste tient son coupon, n'est-ce pas? Et comme jalousement, et comme il le vénère, son coupon, comme il est mené par lui. Ah, c'est ça, et d'ailleurs, c'est le propre de l'art, vraiment, c'est que l'artiste est d'autant plus, comment dirais-je, a beaucoup plus de chance d'être dans le vrai, de son art, dans son esthétique à lui, même si elle n'est pas reconnue par les autres, si la mère, ici, le père, si vous voulez, c'est la même chose, se laisse entièrement mener par la nouvelle naissance de sa conscience. Ça, c'est l'enfance de la psychologie, bien entendu. Mais enfin, on ne le sait pas assez. On ne le saura jamais assez. Nous sommes toujours divisés, n'est-ce pas, entre ces deux facultés remarquables, le don de s'abandonner. Et l'homme qui ne sait pas s'abandonner, qu'est-ce qu'il tient de la vie, qu'est-ce qu'il en a, et quelle chose morose, et quelle chose faite de cendre. Il n'y a pas de création, il n'y a plus qu'un conservateur de musée. Donc, un homme qui ne sait absolument pas s'abandonner, une femme qui ne sait absolument pas s'abandonner à rien, mais ce n'est plus autre chose qu'un conservateur de pièces antiques. C'est tout. Parce qu'il ne produira rien. Il conservera, c'est tout. Il dira attention, n'y touchez pas. Il faut calculer, il faut regarder dans les dictionnaires, il faut voir ce que les autres ont dit là-dessus. Si les Assyriens l'ont fait il y a 3000 ans, autrement moi je bouge pas, n'est-ce pas? Voilà. Voilà pourquoi il y a un moment dans la création, et je crois que tous les grands arts, tous les vrais artistes le savent, tous les poètes le savent, tous les mystiques le savent, il y a un moment dans la création où il n'en faut parler à personne. Il ne faut pas amener ses amis là-dedans. Il ne faut pas amener surtout les gens qui, amis, sont quand même, et surtout pas les experts. Surtout par les experts à ce moment-là. Ce n'est pas pour rien que lorsque Jésus est né, on a dit aux mages, maintenant, on allait le dire à personne, n'est-ce pas? À personne. C'est le silence autour de cette naissance. Toute naissance se fait dans les ténèbres qui sont la vraie lumière du ciel. Car qu'est-ce que c'est que la lumière artificielle? Et même la lumière solaire. Et ce n'est pas autre chose qu'au point de vue. Si nous transposons ça sur un plan sonore, c'est un bruit épouvantable. Mais le silence est créateur. Tout germe est dans l'ombre, le germe humain, le germe de la graine. Le point de départ de la vie est toujours dans l'ombre, toujours dans le noir. Le noir, c'est le milieu créateur. Alors, c'est le silence. Et vous savez très bien que plus vous parlez d'une chose qui vient de naître en vous, le plus vous courez le risque de l'avoir assassinée, cette chose, amochée, étranglée, étiolée, et finalement, plus rien qu'une petite loque, et vous la regardez d'un air dégoûté en vous disant, oui, eh bien ça, j'ai cru que je me suis trompé, et que peut-être vous aviez parfaitement raison. Non, c'est le silence. Ne pas parler. Il y a un temps pour tout. Les petits poupons, on les laisse dormir toute la journée et on ne parle pas dans leur compagnie. Ben, les idées, c'est la même histoire. Quand une idée a finalement ses deux jambes et qu'elle se met à marcher toute seule et que la mère peut déjà voir son idée tirant la laisse devant elle, alors à ce moment-là, elle peut en parler à tout le monde. Alors, ça ira. Pas avant. Enfin, voilà bien une digression. Une autre chose qui pourrait aller pour un cours en groupe privé, donc pour la plupart par des personnes qui font eux-mêmes des thèmes et qui connaissent tout le vocabulaire astrologique, c'est une façon que j'emploie couramment et avec beaucoup de satisfaction de repérer l'heure de naissance à quelques 10 minutes près d'exactitude, peut-être, jusqu'à ce point-là d'exactitude, par un procédé qui n'est pas le procédé ni de rectification par les dates de mort et de naissance ou de grands événements dans la vie de la personne. Un autre procédé. Je ne veux pas entrer là-dedans maintenant parce que ce serait déjà trop technique, mais il y a un autre procédé. En bref, je peux dire ceci. Il consiste, lorsqu'on a affaire à une personne sensible, bien articulée, et de bonne mémoire, et qu'elle a déjà un certain âge, au moins 30, 35 ans, de lui dire, enfin, dans la vie, quelle est la constante de vos ambitions, ou la constante de vos aspirations. J'entends la constante, parce que nous oscillons, n'est-ce pas, tantôt nous croyons vouloir ci, puis tantôt nous croyons vouloir ça. Mais enfin, on veut faire quelque chose de sa vie. Bon, il y a bien des gens qui se disent, on va faire quelque chose de ma vie, mais pardon, eh ben, je veux me marier, je veux avoir une famille, je veux une femme, je veux un mari, je veux de l'argent, et ben, ça a besoin de ça. Et vous trouvez que c'est pas assez pour faire quelque chose de sa vie? Mais vous savez très bien que généralement, ça ne suffit pas. Il y a quelque chose qui dépasse ça tout le temps, et qui exige de nous, à côté de tout ça, par-delà tout ça, quelque chose. Alors c'est ce quelque chose qui correspond à la 10e maison astrologique, c'est ce qu'on appelle la volonté du ciel, autrement dit la volonté de l'âme, c'est ça qui représente l'ambition, l'aspiration, et si une personne me dit, ah oui, je reviens toujours à la même tendance, j'aimerais faire telle et telle chose. Évidemment, cette personne-là, généralement, c'est celle qui ne l'a encore pas fait. Elle est donc frustrée. Alors je me dis, bon, alors, mais c'est dans quelle direction? Ah, mais voilà, la direction semble se définir. Alors, du même coup, on est en droit de conclure, tiens, c'est tel signe sur le milieu du ciel. Et puis, si la personne n'a vraiment que périodiquement, cycliquement réussi, ce qu'elle a fait là, on la lui laisse définir cette chose pour confirmer encore la signification du signe et de la planète maître du signe, et nous concluons que cette planète est ce qu'on appelle affligée. Et puis alors, la nature de l'affliction, si ça correspond à l'expérience que cette personne a eue avec le monde, avec une carrière, avec une profession, avec sa mise en placement dans la société humaine, indépendamment de toute considération familiale quelconque et romanesque quelconque, alors, si ça correspond à la fonction de l'aspect de la planète maîtresse, nous savons tout de suite que nous avons là le milieu du ciel de la personne. Mais nous n'avons pas encore le degré. Ça, c'est une autre variante. Mais du moment qu'on a le milieu du ciel, si par hasard on l'a, on a automatiquement le nadir, n'est-ce pas, la quatrième pointe. Alors immédiatement, vérification de la qualité de la quatrième maison, c'est-à-dire du foyer dont la personne est issue. Est-ce que ce foyer est comme ci, est-ce que ce foyer est comme ça? Est-ce qu'il s'est passé telle et telle chose dedans? Quelle est son atmosphère, son climat psychique? Le maître de quatre va nous le donner. S'il y a des locataires en quatre, elles vont encore rencontrer le potage. Bon, eh bien, si ça correspond, alors c'est une vérification de la valeur de la 10e maison que l'on suppose être correcte. Et c'est ainsi de suite qu'on peut y aller. Ce serait une idée comme celle-là. Je passe à mon sujet de ce soir. Cette introduction à cette causerie de ce soir ne tombe pas du tout mal puisque je viens de dire que découvrir le vrai nom, une expérience vitale de notre nature, pour qu'elle reste dans cette forme-là dans la mémoire et qu'après elle nous serve de lumignon pour les autres valorisations de l'avenir, pour pouvoir faire ça, il faut que l'astrologie soit dans un rôle stratégique entre vous-même, votre petite personne humaine, et ce que maintenant je dois appeler le ciel. Si vous voulez, le monde de l'âme. Le monde de l'âme. Il faut que ce monde de l'âme soit singulièrement cernable, discernable, et dans une mesure mesurable, pour que nous puissions vraiment être en mesure d'apprécier le sens de nos expériences. Et là, j'entre tout de suite dans le cœur de ma cause. Je vais m'adresser alors surtout à tout le nouveau public que je puisse avoir ici. Qu'est-ce que c'est que la chose? Au fond, qu'est-ce que c'est? Quand tout est dit, les livres lus, les calculs faits, et au fond, de quoi s'occupe? Eh bien, c'est pas autre chose que le roman de l'âme. La religion, c'est le roman de l'âme. Bien que ce n'est pas la religion de la personne. Ce n'est pas le roman de la personne. La religion, c'est le roman de votre âme. Point des idées des gens qui pensent à la religion comme un mobilisant un dieu vengeur, un dieu justicier, un dieu tout puissant, mais sombre et redoutable. C'est pas du tout cette idée-là. Nous sommes heureusement dans un monde et dans un Occident et dans une société qui est la nôtre, plus particulièrement, celle des écoles qui s'occupent un peu de toutes ces choses. Alors, c'est dans le climat de l'époque que nous ne pensons plus au prince souverain des choses dans ce langage-là. Mais, disons que l'âme du monde, qui elle se meut derrière la nôtre, pas devant, mais derrière, le royaume des cieux est au-dedans de nous, et les astres eux-mêmes sont au-dedans de nous, c'est cette vie de l'âme universelle, liée ici étroitement à la nôtre, par des équations, par des formules très précises, qui sont représentées par le principe des trois axes du monde dans notre thème, et par les positions planétaires qui nous indiquent la vitalité et la qualité de la vie et du volume de ces trois axes du monde en nous-mêmes. C'est ça, d'abord. Donc, c'est le roman de l'âme, le roman de l'âme, chacun selon sa nature. Il y a des gens qui ne veulent jamais y aller voir dans leur âme, ils sont très contents de ce qui s'y passe, et n'osent pas y regarder, parce que nous sommes tous des poltrons. Il y en a naturellement, nous avons des raisons de l'être. On ne veut pas y aller voir. Bon. Enfin, il y en a d'autres qui veulent y aller voir. Ils veulent voir la vérité au fond du puits. Et l'astrologue, c'est celui qui veut vraiment voir la vérité au fond du puits. Il sait qu'il y est, il y a l'eau, il veut se voir dans cette eau. C'est le roman de l'âme. Pour aimer l'astrologie, il faut aimer son âme. Enfin, la sienne. Il faut d'abord de soi-même, non pas de sa petite personne, mais enfin de son âme à soi. Dans ce qu'elle a de lié au monde cosmique, il faut avoir un saint respect de son âme. Il faut avoir un respect objectif de son âme qui grandit et un amour de nous-mêmes qui grandit dans la mesure même de notre unité. Sans amour, il n'y a rien. Si le principe d'indifférence, qui est justement l'opposé du principe d'amour, est présent quantitativement dans nos vies, vous ne pourrez jamais rien faire de votre existence. Vous êtes inerte, on commence. Et alors, à plus forte raison, le seriez-vous à vous mettre à l'astrologie. Il ne faut pas plaisanter avec l'astrologie, attendez. C'est un temple sacré. Ça vous a des parvis, ça vous a des colonnes, et ça vous a plusieurs portes les unes dans les autres. Il faut vraiment avoir l'amour de l'univers, l'amour de l'âme du monde. Il faut savoir saisir le vocabulaire divin de l'univers qui s'inscrit à tous les instants dans le tréfonds de nous-mêmes sans qu'on le sache consciemment. Il faut vraiment attraper ce clavier formidable de l'univers dont il se joue au fond de notre disons le mot subconscient si vous voulez, pour quelques-uns, disons dans le fond de notre âme, dans le fond de l'inconscient ou dans le fond du transconscient collectif auquel notre conscient est élevé. Il faut ça. Il faut bien se dire que les planètes, dans le thème astrologique, ce sont des, et j'insiste là-dessus, ce sont des personnages dignes d'être aimés, dignes de tout notre cœur et de tout notre respect. Ce ne sont pas des formules froides, ce ne sont pas des forces impersonnelles, elles sont toutes des personnes et donc des esprits et des cœurs et des volontés intermédiaire entre nous et un monde supérieur à nous-mêmes. C'est cette qualité d'intermédiaire que sont les planètes dans le thème astrologique, les planètes d'un système sidéral, d'un système solaire, qui le lie à d'autres systèmes solaires, ce sont ces attributs de l'être que sont les planètes, ces attributs sont vivants, ces attributs sont des personnalités, elles ont des images qui sont toujours conformes à la signification des aspects que chacun de ces personnages peut avoir dans le thème. C'est ça qui est fascinant à suivre, et on peut le suivre dans certaines mesures à des moments de clairvoyance. Clairvoyance qui nous vient dans le soleil, par exemple, dans certains rêves, le rêve de certains archétypes, ça c'est connu, le rêve des archétypes, la révélation des grands archétypes, la façon dont le style de la révélation, le rythme de la cadence et le rythme de la révélation, donc le style de nouveau, la façon dont l'archétype s'introduit à vous, les images humaines qui nous amènent, les projections personnelles qui nous amènent de gens que nous ne connaissons pas, mais qui furent une fois sur terre comme nous, c'est-à-dire incarnés comme nous, tout ça nous peuple. Notre âme est peuplée. Notre âme, c'est pas quelque chose de vague. Au fond, qu'est-ce que c'est votre âme? Qu'est-ce que c'est que l'âme? Bon, je ne vais pas définir ça maintenant, n'est-ce pas? Mais pensons à cette question, qu'est-ce que c'est que l'âme? Et incidemment, disons-nous bien une chose, que si vous voulez vraiment arriver à quelque chose d'intelligent avec l'astrologie, et vraiment en avoir la saveur, et vous en flanquer jusque-là de cette saveur, si vous voulez que ça soit vivant et grouillant de vie pour vous, il faut prendre un petit carnet et un crayon et l'avoir toujours sous la main et vous amuser maintenant à revoir toutes les définitions et n'en accepter aucune sans la critiquer. De toutes les définitions que vous êtes données de toutes les valeurs fondamentales de la vie. Qu'est-ce que c'est que l'amour, par exemple? Eh bien, amusez-vous à prendre toutes les définitions auxquelles vous pourriez penser qui est à qu'est-ce que c'est que la force? Qu'est-ce que c'est que la forme? Qu'est-ce que c'est que le conscient? L'inconscient, le superconscient. Qu'est-ce que c'est que Dieu? Qu'est-ce que c'est que la matière, disons? Enfin, tous les termes que l'homme emploie comme ça, sans précision, sans contrôle, par une simple habitude. Qu'est-ce que c'est que la personnalité? Qu'est-ce que c'est que la volonté? Ces termes de psychologie. Refaites tous ces termes. Allez voir ce que vous en savez, parce que si ces termes sont absolument flous en vous, ben les termes astrologiques sont encore plus flous, car ils ne sont pas autre chose qu'une représentation idéale, en quelque sorte abstraite, algébrique, donc, de ces valeurs psychologiques, de ces forces psychologiques. Et donc je reviens maintenant à la grande idée, c'est que le thème astrologique vous montre un système solaire qui a donc ses planètes. Vous êtes ce soleil, vous êtes une personne, et les planètes sont des soleils plus grands encore que vous, puisqu'ils vous lient à des soleils plus grands que vous. Jupiter et Saturne, certainement, Uranus et Neptune, à plus forte raison, ils vous lient à des soleils plus grands que vous. Ils sont des médiums, ils sont donc des intermédiaires, ils sont des ponts, ils sont des croisements de routes d'énergie. Or, ces croisements de route sont encore super personnels. Si vous êtes une personne Jupiter dans vos vies, votre Jupiter dans le jeu et ce cycle de son âme est bien plus personnel encore que vous. Sur le plan de l'incarnation, il vous apportera, entre autres choses, il vous apportera le médecin. Alors, si vous comprenez que la planète peut vous apporter un médecin, et un bon médecin, un bon Jupiter vous garantit en général un bon médecin sur le plan corporel. Bien, alors, si Jupiter peut vous promettre, vous obtenir sur le plan horizontal de la croix, un bon médecin, qu'est-ce que vous pensez qu'il est, le Jupiter, dans l'invisible, hein? Il y en est un autre de médecin. Et il fait choisir le médecin qui vous conviendra. Il se fait des communications, des intercoms, des liaisons téléphoniques entre vos planètes dans leurs aspects, avec la pointe des maisons. Tout ce travail, tout le temps, c'est une centrale téléphonique qui bouillonne perpétuellement votre Terre. Et à certains moments, il y a embrouillage des fils. À certains moments, tout le monde se jette dans la même cabine téléphonique au même moment. C'est un embouteillement. Et c'est une hypertension. Et puis, quelquefois, ben, c'est une hémiplégie. Ben, c'est ça. Tout ça peut arriver. Mais le thème est grouillant de vie personnelle. Aimez vos astres comme si c'était des âmes plus grandes encore que vous. Dignes non seulement de votre attachement, de la vie affective de votre nature, mais dignes aussi de votre dévouement et de votre révérence. Il faut bien dire que le mystère a une grande valeur. La valeur du mystère, indéniablement, je pense bien que le moment que vous y portez l'attention, ça vous saute aux yeux. La valeur du mystère, c'est que l'homme est tellement iconoclaste, il est tellement lourd, il est tellement plateau, il est tellement grossier, il est tellement ravaliseur, dans son ensemble, sauf à certaines heures où il se dépasse, comme nous l'avons vu dernièrement avec les événements de Hongrie, nous avons vu tout le monde occidental momentanément se dépasser magnifiquement. Mais il faut bien le dire, le mystère prête à l'enchantement, il prête à l'imagination, et comme le mystère est souvent quelque chose qui nous donne une certaine angoisse, l'inconnu, l'inconnu inspire une certaine angoisse, cette angoisse est salutaire, elle est disciplinaire, mais il est certain que si nous avions très nettement, il y aurait là une contradiction d'ailleurs dans les états de conscience, car il faut la rupture d'un niveau de conscience pour voir ce qui est dans l'invisible. C'est une rupture de niveau de conscience qu'il donnera. Alors ne pas avoir la rupture du niveau de conscience, voir l'invisible comme vous voyez le visible, mais ça serait une contradiction dans les termes. Ce serait absolument donner une torsion à l'évolution, au principe évolutif dans l'univers, au principe pédagogique fondamental de l'univers, une torsion abominable, intolérable, et qui ne devrait pas durer. Tout le bien est fou. On ne confond pas les niveaux. Le changement de niveau, c'est quelque chose de capital, ce changement de niveau. Par conséquent, nous pouvons avoir sur le monde invisible, et disons entre autres choses sur l'au-delà, que des aperçus fugitifs et momentanés. Et la qualité de notre réaction va nous dire si nous allons mériter sans danger d'en avoir encore davantage. Il ne faut jamais confondre le plan. Le plan de l'invisible, c'est le plan vertical, le plan du visible, c'est le plan horizontal, et vous n'allez pas courber les bras de votre croix pour que les deux deviennent tout simplement un. Ils ne seront jamais de cette façon-là. Dernièrement, je voyais un film sur Israël, ou Cinébref de Genève, et je vois la cérémonie par laquelle, à la fête religieuse, un certain acolyte portait très révérencieusement dans ses bras le fameux rouleau des livres saints de l'Ancien Testament. Eh bien, à le regarder, je me disais, tout à coup, c'est dit qu'il me lut. Oui. Si cet homme voyait l'au-delà, comme il voyait les voisins, il voyait le monde, disons, le monde supérieur, la forme de ce monde, les vies dans ce monde, les personnalités de ce monde, les échanges dans ce monde. Est-ce qu'il y gagnerait? Non. Parce qu'il n'est pas prêt. Je serais jeté des perles à un pourceau. Il n'est pas prêt. Son incarnation, son cheminement de croix, sa médiocrité elle-même a besoin de s'affiner, de s'améliorer, et il n'y a qu'une façon de le faire, nous le savons, c'est l'éducation et la souffrance. Cet homme, respecte Dieu, précisément parce qu'il n'entend pas, il ne le voit pas. Il respecte les grands saints, oui, parce qu'il ne les voit jamais et ne les entend jamais. Arrivé sur un terme de familiarité réelle, si on peut l'imaginer authentique, dans un dialogue avec un grand, un des tout grands, disons, de l'humanité est disparu, et nous-mêmes, et il faudrait être soi-même à une telle altitude de qualité pour que cela soit vraiment authentique et profitable. Car rien ne se passe dans le monde qui n'a pas sa raison d'être, c'est-à-dire son but rigidement utilitaire. L'univers est très économe. L'univers est, malgré toute l'apparente débauche, derrière cette débauche, il y a une formidable économie. Il n'est qu'à aller voir ça dans les thèmes. L'univers est très économe. Par conséquent, s'il y a une échéance psychique quelconque, aussi grande qu'une apparition divine, celle par exemple de Saint Paul, sur le chemin de Damas, et celle que certaines personnes que j'ai dans la salle ici, c'est pertinemment qu'elles les ont, des liaisons. C'est pas du tout une fantaisie. C'est pas du tout un superflu. C'est une comptabilité extrêmement rigide, qui d'ailleurs n'est pas une comptabilité qui les touche au sol. Car nous ne faisons rien seul, et nous ne sommes pas le terme de quoi que ce soit. Nous sommes toujours le moyen terme entre un point d'origine mystérieux et un point d'arrivée humain mystérieux. Jamais nous ne sommes seuls, tous faits en équipe, et même d'être amoureux n'est pas une chose que nous faisons solitairement. On serait étonné de savoir le nombre de puissances psychiques qui sont en jeu, le nombre de personnalités à sens psychique authentique comme nous, qui sont mêlées à nos expériences amoureuses. Pour ne pas parler de nos expériences d'art, nos expériences d'écrivain. Croyez-vous que vous écrivez seul pour écrire un beau livre? Oh, j'en ai de la vie. Vous voulez savoir ce qui se passe dans le téléphone intérieur. Mais vous ne le savez pas, et tout se passe comme si vous ne le saviez pas. Et quelque chose au fond de vous-même compte dessus quand même. La sologie, précisément, déchire le voile. Et voilà pourquoi c'est une science sacrée. Et voilà pourquoi ne peut déchirer le voile par le moyen astrologique que ceux qui quand même ont certains droits à déchirer ça. Autrement, alors l'astrologie reste une science, un drame qui se passe pour le spectateur derrière le rideau du théâtre. Alors ils n'y voient rien, ils entendent du vacarme, ils entendent rire et pleurer et ils se sentent privés des choses. Et il y a une certaine heure dans la pratique de l'astrologie, dans son étude, où l'on se dit non, mais quand même, on ne fait pas le pont. On n'est pas mêlé à l'action. On la suppose, on regarde désespérément le livret, ou bien le programme, et on dit, ah, mais maintenant ça doit être tel acteur à ce moment-ci, c'est tel acteur qui joue. Non, on ne le voit pas. On ne le voit pas, et on entend à peine les plus bas silhouettes par là-bas derrière. Puis de temps en temps, les lumières sont parties. Alors là, on est là, bouche bée. Mais tout ça revient à dire que l'astrologie, mes amis, c'est mettre le nom au personnage très vivant, très attaché, des êtres qui vous aiment bien plus que vous ne savez les aimer, qui vous aiment toujours 10 fois plus que vous pouvez vous les aimer, non pas parce que ils ont à cet amour, ils le doivent à je ne sais quoi, de fantaisistes, d'un effort héroïque particulier à eux. Non, 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 c'est une loi générale que qui est au-dessus de vous aura plus de puissance d'attache plus d'intelligence, plus de lumière et plus de bonté et plus de moyens que vous. Les noblesses obligent. Alors, si vous pensez que le thème parle, que votre ciel intérieur parle, que ce monde intérieur grouille de vie, mais c'est ça qui fait les aspects astrologiques. C'est ça qui amène les événements. Les événements ne viennent pas par des influences qui nous sont envoyées comme ça par des planètes dans le ciel, où j'en ai de la vie. C'est pas ça, on projette quelque chose sur la table, et puis finalement ça deviendra jaune et brûlant à force de projeter la flamme dessus. Ça, c'est pour l'astrologie. Ce sont pas des choses physiques qui animent notre âme, où j'en ai de la vie. C'est toute une autre énergie dont le physique est une contrepartie. Mais ça, c'est un autre sujet. Tout à fait un autre sujet. C'est un monde grouillant à l'intérieur. Vous avez un chez une médium. Vous avez un saint qui vous parle ou qui reçoit quelque chose. Mais soyez tranquille. Vous pourrez, si vous êtes astrologue, détecter exactement la personnalité planétaire qui parle. Et quand l'heure est venue d'être en position de dire à son pupille, voici la loi et voici la présence. Qu'est-ce que c'est qu'une conjonction planétaire transitant sur un thème, sur une planète radicale? Mais est-ce que c'est pas une présence? Quand vous avez dans votre thème le Neptune est très vivant. Peut-être le Neptune radical est très vivant. Est-ce que vous ne sentez pas que lorsqu'il transite, disons, votre Mercure, ou votre lune radicale, mais est-ce que vous ne sentez pas la présence de la fusion dans notre langage qui correspondrait à la mère divine, à la sainte vierge elle-même? Est-ce que ce n'est pas sa présence qui vient se placer devant vous? Jamais, jamais, au grand ciel, jamais prendre l'astrologie comme une mécanique céleste. Ne commencez pas à vous y mettre, vous allez vous dessécher. Vous allez vous refuser tous les droits à l'abandon, à la vie. Et il faut savoir aussi bien s'abandonner qu'il faut savoir se retenir, c'est-à-dire pas tellement se retenir de s'abandonner, mais que de réfléchir en même temps que s'abandonner. L'astrologie nous permet de réfléchir à ce à quoi on s'est abandonné pour permettre un abandon plus tard encore plus lucide et plus lumineux. Et plus produit. Cette alternance entre réfléchir, donc se retenir pour comprendre ce qui s'est passé, pour pouvoir mieux se laisser aller au courant de la vie, qui est l'autre pendant de la bascule, et voilà ce que l'astrologie cherche vraiment à nous offrir. Donc rien de mécanique, rien de sec, rien de formel, rien d'aveugle. Il y a un sens à tous ces mouvements planétaires. Elles visent une altitude, une élévation, en bref, une élévation spirituelle. Elles viennent, nous venons de quelque part et nous allons quelque part. Et la Terre elle-même et le ciel et le soleil et tous les astres viennent de quelque part et vont quelque part. Le temps, c'est ça. C'est ce qui sépare le point de départ et le point d'arrivée. Or, il y a donc une philosophie cosmique qui se dégage dans l'astrologie. Une vision du monde en Weltanschauung. Et cette vision du monde est absolument fondamentale à l'interprétation des thèmes. Et c'est pas facile d'avoir une vision du monde pareille, parce que ça fait une gymnastique à l'esprit et que ça nous change quelques-unes de nos habitudes religieuses qui sont absolument puériles. Ils sont sous la forme puérile. Le monde vient. Ah, ça, c'est un sujet que je ne vais pas commencer à entamer ce soir. Mais nous savons très bien dans l'expérience humaine que nous venons de quelque chose qui n'est pas très beau, que nous avons en nous un côté qui n'est pas très beau, pas beau du tout, et un autre qui est très beau. Et que nous avons en nous quelqu'un qui est moins grand que nous, et quelqu'un en nous qui est plus grand. Et nous faisons la navette toutes les journées entre les deux. C'est le choix en ce qu'on appelle vulgairement le bien et le mal. Voilà. Et nous sommes toujours, à certaines heures surtout, au croisement des chemins, et nous savons très bien qu'il y a une voix en nous, à moins d'être complètement fou, il y a une voix en nous, c'est la voix d'une force qui s'appelle Saturne, c'est une grande personnalité aussi, qui viendra nous dire, dis donc, est-ce que tu te rends compte exactement de ce que c'est que si tu vas de ce côté-là, que tu vois où ça te mène? Alors, est-ce que tu veux vraiment y aller? Nous sommes dans un cas très spécial, c'est que nous voyons que le conscient en nous, au fond, ne sait rien des moteurs qui l'amènent, mais rien. Il ne sait que lorsqu'il les voit jouer. C'est trop tard alors pour vraiment attraper la chose sur le vif. L'acteur principal se jette sur la scène, puis se retire et nous on cligne les yeux. Mais quelque chose est arrivé. Et c'est nous qui payons la casse. Ou qui avons le bénéfice sans trop bien savoir pourquoi. Il y a ceci de formidable, c'est que nous ne savons pas que nous savons. Ou nous savons des choses que nous ne savons pas que nous savons. Et alors ça, c'est toujours les choses spirituelles qui sont représentées par ces 4%. Il sait plus qu'il ne sait qu'il ne sait. Et ça, c'est toujours lorsque la puissance uranienne et neptunienne du thème entre en jeu dans la vie grouillante de l'âme. Et il y a en nous quelque chose que nous ne savons pas du tout, mais que nous ne savons pas que nous ne savons pas. Et ça, c'est le monde de l'inconscient collectif infernal auquel nous sommes étroitement liés aussi. Puisque nous sommes le pont entre les deux pôles, et c'est le monde plutonien, ou le monde de la planète Pluton, qui est un monde d'une polarité à elle. Il y a l'autre pôle, c'est le point alpha de l'économie sidérale. Le point alpha est le point de Neptune, et le point oméga, c'est le sommet de l'économie sidérale. C'est pas plus compliqué que ça, il ne faut pas s'effaroucher naturellement. Il faudra revenir constamment sur la fonction de Pluton. Elle est colossale dans le monde, il ne faut pas la redouter, il faut la regarder en face. Elle est une fonction extrêmement importante et précieuse, parce que sans cette fonction-là, il n'y aurait aucune raison d'avoir des jambes, des bras, une intelligence, une tête, il n'y aurait même pas d'espace vital dans le... pour nous égayer et nous dégourdir. L'effort de la vie. La vie est un effort. Un effort que nous aimons faire quand on a des muscles que vous employez. Non pas pour les avoir. Il a fallu des résistances. Il y a quelque chose qui nous résiste tout le temps. Voyons. Il y a toujours un effort. Il y a donc un milieu qui nous résiste, qui a une complicité contre nous. Est-ce que c'est vraiment avec une intention d'être contre nous? Mais non. C'est un état de conscience cosmique. C'est un état, disons, de chimie ou d'atomisme. Je préférerais le langage de l'atomisme, alors ici, généralisé, qui a sa forme psychologique au sein de l'humain, de même que le monde atomique supérieur a sa forme psychologique sous la forme de ce qu'on appellerait les saints, les anges gardiens, les archanges, etc., etc. Un archange a une structure atomique, et un démon également, et l'homme également, et tout là aussi. Alors, derrière, dans cette structure atomique, quand vous avez une planète en mouvement, vous avez une structure atomique en mouvement, mais vous avez une personnalité en même temps, car vous êtes une structure atomique et une personnalité à la fois. Et là, vous avez tout un univers depuis le premier atome jusqu'au sommet de votre esprit qui se meut dans la planète en mouvement. Comme ça, comme vous vous mouvez vous-même. Je veux venir maintenant à ceci. Alors maintenant, j'entre dans la technique, et puis comment? Alors attention, je suis en pleine technique. On est assez dit pour les nouveaux venus ici. J'attire l'attention, incidemment, pour les nouveaux venus, qu'il y a quelques livres sur la table. Celui qui s'appelle, soyez vous-même astrologue, qui est très pratique, très utile et pas cher, et qui sert admirablement tous ceux qui viennent à l'astrologie pour la première fois, qui leur donnent très grande facilité et très correctement les éléments de travail, les premiers éléments de travail. Il y a également d'autres livres là, et puisque je vais parler maintenant du devenir de l'âme, il y a, je crois là, sur la table, un livre de M. Jacques de Marquette sur le devenir de l'âme dans la pensée hindoue. C'est un petit, une petite fascicule qui me paraît extrêmement éclairant, lucide, bien ordonné, et avec des termes, des conceptions, des termes à employer qui nous aident à préciser le langage de nos planètes. Car naturellement, toute connaissance psychologique, métaphysique, philosophique, je la transforme de nouveau en un langage planétaire. Alors, imaginez-vous ceci. Un instant, employez votre imagination. Vous voyez ce que c'est qu'une cornue. Quelques-unes d'entre vous, quelques-uns d'entre vous ont fait de la chimie, en tout cas primaire, élémentaire. Dans une cornue, mettez de l'acide sulfurique. Et puis, trempez là-dedans ou jetez là-dedans un morceau de cuivre pur. Ceux qui ont vu l'expérience ne l'oublieront jamais. Il se fait immédiatement une ébullition du tonnerre. Tout ça est en travail, il y a une furie, il y a un déclenchement de rage. On ne voit plus rien. Cet acide sulfurique liquide, très immobile, la séance très tranquille, qui a l'air inerte. Le voilà qui est dans une rage. Le morceau de cuivre là-dedans se sent dans une bagarre. Son nom, elle se demande ce qui lui arrive. Il lui arrive bien des choses, puisqu'il ne cesse d'être du cuivre. Mais laissez tout ça reposer et revenez voir ça le lendemain matin. Le lendemain matin, vous avez une eau claire, une autre manière de parler, vous avez un liquide clair, et au fond, il n'y a plus de cuivre, mais il y a un merveilleux cristal bleu, le sulfate de cuivre. Un merveilleux cristal bleu. Eh bien, comparaison n'est pas raison, je ne veux pas être certain, je ne suis pas certain que l'image correspond exactement, on ne le fera pas, à ce qui se passe dans la nature cosmique, dans la vie même, et des astres, et particulièrement de notre terre, et particulièrement de notre humanité, de nos corps et de nos êtres. Mais enfin, cette image nous revient toujours. Nous sommes le cuivre en train d'être transformé. Mais alors attention maintenant. Nous sommes transformés grâce à l'acide sulfurique dans la cornue. Mais nous sommes transformés par un principe supérieur invisible qui est le principe de cristallisation du sulfate de cuivre. La puissance réelle est toujours invisible. Et ce qui se manifeste dans le visible n'en est que la manifestation et les marionnettes. Jamais le visible n'est puissant en lui-même, c'est ce qui est derrière. Quand on voit, quand on pense, or Neptune, mais c'est le principe de cristallisation. C'est lui l'invisible. Et nous le voyons bien dans nos thèmes, c'est que c'est la planète qui est la moins tangible dans l'action. Et mes chers amis qui pratiquez la psychologie des profondeurs, vous l'avez peut-être déjà noté sous cette forme, mais il m'est venu à l'esprit l'autre jour très fortement qu'on peut dire ceci. Qui a un Neptune extrêmement faible, qui au moment des plus grands aspects qui lui sont dus, qui lui sont propres, se trouve être presque négligeable à mesurer, où il ne se passe rien de particulièrement propre à sa valeur, alors vous pouvez être tranquille. Ah, vous pouvez être tranquille. Alors le Pluton de ce thème-là sera formidable. Parce qu'alors ça signifie que cette personne est encore beaucoup plus proche du niveau de son Pluton, c'est-à-dire du niveau d'acide sulfurique, qu'elle ne l'est encore du réseau de cristallisation du Neptune. Voilà. Vous prenez le tout petit soleil que j'ai mis là, ici, alors comme un point. Ceci, c'est le soleil. Ceci, ce cercle-là, avec son centre, c'est le soleil. Je ne reviens pas de nouveau sur les définitions du point et du cercle. Mais enfin, il y a le petit point qui est là et il y a le grand cercle qui est là autour et c'est le tout, c'est le soleil. Le fait qu'il y a le point au centre du soleil, de ce grand cercle, signifie plusieurs choses. Entre autres, il signifie que ce n'est pas quelque chose de final. Parce que le point indique qu'une fois, c'était la grandeur même du cercle de n'être qu'un point, et que le cercle a grandi. D'autre part, le point dans le cercle indique que la construction d'un cône est en train de se faire, comme ça. Ce point étant ici, là, parce que nous avons ça en deux dimensions. Alors voilà ce que nous avons réellement. Alors donc, par conséquent, nous avons là une nouvelle dimension en jeu. L'introduction du point au centre du cercle introduit immédiatement le principe des cônes, la loi des coniques en jeu, et c'est tout de suite là, toutes les dimensions qui entrent en jeu. Là, les idées des spirales, c'est l'idée de la fonction même de la croix, et du cheminement de la croix, et de la dynamique de la croix, et du principe formateur de la croix. Tout ça est en jeu là-dedans. Bon, eh bien, imaginez un instant que ce petit point central de ce cercle, c'est le point de départ, l'origine même de la dimension humaine, l'origine même de votre âme, si vous voulez. Enfin, de votre être individuel, de votre individualité, de votre autonomie. En quoi vous vous êtes isolé, vous avez réussi à vous isoler de l'ambiance. Vous n'êtes pas une molécule parmi des molécules, vous n'êtes pas un numéro atomique parmi des numéros atomiques. Non, vous êtes cette chose unique qui est vous-même, et qui ne se double pas, qui ne se répète pas, qui est vous-même. Eh bien, mais c'est tout petit. Et c'est où ça? Ça barbote dans quoi, ça? Ben, ça barbote dans la sulfurique. Voulez-vous que ça barbote? Ça a été mis dans une cornue. Alors, c'est dans l'acide sulfurique. Pourquoi c'est dans l'acide sulfurique? C'est parce qu'on doit en faire un cristal de ce petit soleil qui est là au fond. De ce petit bout de cuivre qu'on a mis dans cet acide sulfurique, on va le transformer. Mais c'est que rien ne doit rester comme il est. Mais que l'homme ne doit pas rester tellement simplement un homme. Un être humain. Un âme ne doit pas rester simplement un âme pour l'éternité. Ça n'existe pas ces choses-là. Le transformisme perpétuel La croix de mutation, la croix mutable, mais c'est la croix de transformation. On ferait mieux l'appeler la croix de transformation, la croix transformante. Elle transforme la fixe. Elle se sert du cadre de la cardinale pour transformer la fixe. La cardinale est en quelque sorte l'alambic lui-même. Et l'incarnation, mais c'est pas autre chose que ceci. L'incarnation, mais c'est flanquer le morceau de fil dans la fixe. Là, c'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Alors vous dites, mais c'est quand même dégoûtant la vie. Mais c'est absolument injuste. Mais le diable est plus fort que le bon Dieu. Enfin, il y a un principe négatif qui nous a mis le Dieu de lumière. Le lumière est une vaste immoralité. C'est pas autre chose. Tout est au hasard. Et si nous sommes myopes, nous allons dire ça. Mais Dieu sait si je l'ai dit. Et si nous sommes myopes. Parce qu'il y a des moments où quand même on voit bien cette autre chose qui est en nous. Et alors, ce que nous voyons, c'est que le principe cristallisateur attend le moment où le cuivre arrive et a besoin d'attendre selon, et une opération de véritable apocalypse révélatrice se fait au moment où le point est vraiment entré dans l'alambic de la sculpture. Et le travail, alors ici, du grand principe qui part de ce cercle-là, qui descend au tout petit cercle. Alors ce principe-là, il est tout à fait invisible. Plus il est grand, plus il est invisible. Mais il est dans l'alambic. Il a son rayon, il a son réseau, il a son magnétisme, appelé ça se poumoudrer. Il a son influence. Et il s'empare de la combinaison acide sulfurique et cuivre, et il vous enlève et l'acide sulfurique et le cuivre, et vous laisse un cristal bleu merveilleux. Je crois que c'est le cristal dont on se sert pour prendre le temps, pour faire le bleu, le nettoyage dans les laveries. Eh bien, voilà, si vous pensez à ça, alors voyez le thème à cette lumière. Voyez le thème à cette lumière. Quand je parle Pluton, je parle acide sulfurique. Le lien entre nous et l'acide sulfurique, nous, le Soleil, maintenant disons que nous sommes de cette grandeur-là, nous, le Soleil, et nous voilà barbotant dans la vie, dans ce qu'on appelle l'acide sulfurique. Oui, mais alors, naturellement, il y a résistance, il y a jeu, il y a bousculade, nous sommes de taille, évidemment, à nous empoter, à nous étreindre avec la sulfurie. Mais pourquoi sommes-nous de taille? C'est parce que le principe cristallisateur est en jeu du même moment. C'est lui qui nous a mis là-dedans. Et le grand horaire du transformisme commence à jouer. Et voilà. Et alors, graduellement, la puissance qui est représentée par ces trois cercles, qui représente deux puissances différentes, mais du même ordre et dans la même intention, l'une, c'est le grand cercle, c'est le Neptune, les cercles secondaires sont les Uranus, qui devraient normalement être placés en dessous dans le code, ces puissances qui sont du collectif transconscient, nous réclament, nous mènent, se servent de nous pour croître eux-mêmes, et c'est tout un univers intérieur, un continent intérieur, un univers spirituel qui se construit au sein même de la société. Alors, il y a une chose dont je vais encore parler, avant d'aboutir à la conclusion de cette soirée. Quand vous avez devant vous le cône horoscopique, c'est un cône, n'est pas horoscopique. Quand vous avez devant vous le cône horoscopique, lorsque vous avez ce thème de radical, vous avez 12 maisons. Vous avez 3 axes du monde. 3 axes de 4 bras, ça fait 12. On appelle ça 12 maisons. Vous avez les 12 signes qui sont représentatifs de la puissance planétaire qui anime et qui possède le droit téléphonique sur ce bras d'une maison. Voilà. Qui a la priorité téléphonique sur le bras d'une maison? Qui peut avoir la priorité de manier une chose par le manche? On va dire, mais par quel bout est-ce qu'on va prendre cet individu? Quand vous dites ça, mais par quel bout le prendre? Mais vous pensez sans le savoir que c'est un bout, ce bout c'est une des pointes de son thème. C'est une des pointes du thème dans lequel vous allez le prendre. Et vous allez le prendre par un bout dont le contrôle est conforme à vos désirs, à vous, alors passant temps avec vous. Et quand vous avez ce thème devant vous, vous avez donc 12 points de maison, 12 signes du zodiac, 12 degrés là sur ces points. Vous avez vos 10 planètes. Vous avez une série de rapports à leurs subsidiaires qui sont fonction à la fois et des positions planétaires et des bras de la croix. Et si vous prenez ces fonctions subsidiaires qui, l'une dans l'autre, vont faire une occupation de presque tous les degrés des 360 degrés du thème, parce que la part de fortune en est une, les nœuds de la Lune sont une autre, mais il y a d'autres parts que la part de fortune. Presque chaque degré du thème est une part de quelque chose qui s'établit par une relation entre le jeu de deux planètes et l'ascendant, par exemple. Ou même une autre division de la croix et l'ascendant. Vous avez une intériorité grouillante là-dedans. La plupart des gens sont encore trop insensibles aux parts qui sont plus complexes que la part de fortune. Alors, c'est une raison pour laquelle on ne peut pas les mettre dans le thème, ça ne servirait à rien et le thème coûterait affreusement cher parce que ce ne serait pas rentable, parce que le travail est trop considérable et les gens, ça leur servirait à rien, la part de l'esprit dans un thème, la part de l'illumination dans un thème. Et ça ne servirait à rien au 9e, au 9e, 100e des gens. Ça part fortune, oui. Donc, vous avez ça. Mais, alors maintenant, je peux très simplement dire 10 planètes, 12 points de maison, les nœuds de la Lune, si vous voulez, encore 2 ou 3 petites choses, entre autres la carte sorteuse, et vous avez vraiment tout l'individu là. Tout ce qui sera saisissable à votre intelligence, en tout cas, et pour longtemps, est là, dans ce document. Est mis sur une, couché sur une feuille de papier. N'allez pas y mettre des choses autres. Notamment, pour l'amour du ciel, n'allez pas y mettre encore ce qu'on appelle les étoiles, c'est-à-dire les soleils. Il n'y a pas une plus grande erreur que cette espèce d'affabulation moyenâgeuse qui a voulu nous mettre des étoiles fixes dans le thème. C'est n'avoir rien compris à une étoile fixe, et c'est n'avoir rien compris à une étoile et à une planète, et encore et surtout à un thème astrologique d'y mettre une étoile fixe. N'allez pas encombrer ce thème. Tout est là si vous savez voir, si vous savez interpréter les signes, les décans, les demi-décans, les degrés, les parts, la valeur des planètes, la valeur exacte de vos équations, de vos relations planétaires, vous aurez tout. On a dit, par exemple, que si vous avez, sur la pointe de la 3, ou si vous avez un as qui se trouve conjoint aux Pléiades, par là, dans la fin de la 2 ou commencement de la 3e maison, alors ça vous fait courir des risques de devenir aveugle. Non. Mais non, c'est pas ça qui fera l'aveugle. Vous connaissez. Ces idées-là ont germé dans les cerveaux chercheurs lorsqu'on ne connaissait pas les grandes planètes du transconscient. On ne connaissait ni Pluton, ni Uranus, ni Neptune. L'univers astrologique était centré pour la recherche uniquement jusqu'à Saturne. Il y avait des quantités de choses sur le mystère même du degré qui étaient ignorées. Le zodiaque n'était pas complètement, les points de repère, le système de référence était incomplet. Alors il fallait suppléer à ce vacuum en cherchant ailleurs des explications. C'est la tragédie de toute la recherche philosophique dans le monde que la France. Également. Dites-vous bien que le miracle est là, que vous avez là, dans ce grand cercle, la signification de Neptune, dans les cercles concentriques qui sont là, qui en vérité devaient être un peu plus bas, vous avez la signification de Uranus, qui est représenté alors lui comme ça, pour l'instant. Ceci représente les deux pôles supérieurs du transconscient collectif auquel vous appartenez, vous, le Soleil,
est son fils, qui est votre intelligence et qui est Mercure. Vous, je n'êtes pas autre chose, vous, dans cette salle, vous tous, moi. Et je ne suis pas autre chose que mon soleil, mon Mercure et ma lune. C'est tout ce que je suis, mon être. Moi-même seul, c'est exact moi. Le reste, Vénus, Mars, attention. Dès que vous avez Mars et Vénus, mais attention, vous avez les attributs de quelque chose de supérieur qui rentre en jeu. Ceux-là sont des ligateurs, des lieurs. Ce sont des dieux lieurs. Il y a un chapitre merveilleux sur les dieux lieurs dans le livre de Mircea Eliade sur images et symboles. Les dieux lieurs, qui vous lie? Vous ne pouvez pas aimer sans Vénus. Ça veut dire que quoi? Vous attachez sans Vénus. Vous attachez ici, par exemple, à votre monde intérieur, et votre monde intérieur qui s'attache à vous. Enfin, il s'attache par Vénus aussi, lui. Et puis il vous dit, dis donc, toi, tu n'es pas au monde pour n'en rien faire. Nous sommes intéressés à annexer une autre personne là-bas. Ton groupe spirituel, ça s'entend très bien avec nous. Nous voyons dans la loi de croissance de son groupe et la nôtre, tu dois faire un seul groupe. Nous allons faire un cartel. Oui, mais là, pour faire ce cartel, toi, tu vas épouser cet autre là-bas. Parce qu'il n'y a pas moyen d'entrer dans le cartel de l'autre sans son représentant terrestre. Et nous allons leur permettre, et nous voulons qu'ils entrent dans notre cartel en te faisant épouser cette personne. Alors on va t'aider de tous les moyens, on va te la faire aimer. Et on va te faire aimer par cette personne. Alors voilà la personne qui devient amoureuse et elle aurait écrit pour elle. Et elle croit que c'est elle qui a inventé l'amour. Peut-être une façon nouvelle pour certains d'entre vous de concevoir la part de chacun dans le jeu de la vie. Mais si je l'ai dit d'une façon un peu sommaire, pour le temps un peu trop brutal, croyez qu'au fond de moi, je suis certain que je pourrais vous parler des heures et donner toutes les sinuosités de mes convictions à ce sujet, avec des démonstrations à la fin. Car je suis certain que si vous disposez d'un clairvoyant d'une certaine qualité, il ne s'agit pas du mot de passe, mais d'une certaine qualité de sensibilité. Et si, car ici nous avons affaire au droit qu'a l'homme incarné d'élever, de rompre son niveau de conscience et de voir l'invisible, et de le voir en opération derrière la scène, bref, le clairvoyant verra derrière la personne qui est une personne, il verra la personne invisible qui aussi aime cette personne à travers lui. Il y a des yeux qui vous aiment derrière les yeux de qui vous aime. J'en ai fait plusieurs fois moi-même l'expérience. J'ai détecté le regard en second, derrière le premier, le mystère de l'œil. Vous avez bien vu des gens que vous appelez des gens démoniaques, des possédés, certains possédés. La façon dont les yeux sont à ce moment animés, cette transformation de ce buisson ardent qui est l'œil dans le corps humain. Quelle transformation il nous offre l'œil humain. Il passe de l'expression de colère à la tendresse. Mais encore, c'est rien, ça. Il y a le démonisme, comme il y a la grâce de Dieu. Il y a l'amour divin qui fuit dans l'œil. Et il y a le besoin le plus noir de destruction qui est dans l'œil. Et dans le même œil, j'ai vu les deux quelquefois. Et pas dans une seule personne. C'est un peu ma spécialité de fouiller le combat des âmes entre les deux pôles qui cherchent le pôle de la sulfurique, qui voudrait complètement que lui seul, son inertie, domine tout, et puis le pôle du principe cristallisateur qui entre en jeu là-dedans, et qui n'y aura plus d'acide sulfurique, et il n'y aura plus de cuivre, mais il y aura le cristal. Eh bien,
qu'allais-je dire ici? Le Père en ce moment. Oui, alors, vous avez ça dans l'œil de l'homme. Et ça, c'est bien certain, mes amis. Un clairvoyant d'une certaine sensibilité verra la personne qui anime et qui s'est instaurée, insérée dans l'œil humain. Car un œil humain peut être vraiment démoniaque, mais pas un œil solitaire. Il est multiplié par derrière. Il n'est que le scribe d'un bras qui mène la sarabande sur le papier. Et l'inspiration divine qui fait la même chose. Voilà pourquoi, dans toute notre imagerie et dans tout notre art sacré, de la tradition, disons, renaissance, italienne, que vous voulez, ou la chrétienne, vous ne voyez-vous pas des petits anges ou des grands anges derrière les saints et les saintes en méditation, en prière ou en écriture? Ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas une façon émotive de se représenter la qualité de la vie. Il y a là derrière une vérité authentique. Nous ne sommes jamais seuls. Et quand nous nous sentons écrasés de seul, vous êtes tranquille, il y a un principe, il y a une personne, votre logique, il faut que je le répète, il y a une personne ou un groupe de personnes pour qui c'est absolument la conviction certaine que ma solitude, la solitude, c'est la seule chose. Et alors, je suis en contact avec ça, cela m'influence, ça agit sur moi, et je me dis, je suis seul. Et puis, il n'y a rien à faire, et puis, je suis seul. La preuve de ça, que nous ne sommes jamais seuls, c'est que la dixième maison astrologique du thème radical est partant souvent des thèmes en direction primaire et en direction converse. C'est que la dixième maison astrologique, c'est le lien ombilical avec le monde supérieur, ou avec le monde invisible, sur l'horizon, sur la verticale de la croix. Lorsque vous dormez et que votre corps est vraiment en plein repos, et que vous n'avez aucune espèce de que votre matelas est bon, et que votre lit vous puisse la paix, et puis que votre corps vous puisse la paix, et puis que le bruit vous puisse la paix, ah ben vraiment, vous êtes dans, vraiment complètement inconscient de votre corporalité. Donc vous dormez. Soyez tranquille. À ce moment-là, il y a une maison qui joue. Il y en a toujours une qui joue. Il faut bien que toujours. Il y en a une qui joue toujours. Et alors à ce moment-là, celle qui joue, c'est la nuit. Et voilà pourquoi l'on dira que la nuit porte conseil. On se réveille le lendemain matin, on dit, tiens, mais c'est décanté ça. C'était un orage, une salade, c'était le cuivre et l'acide sulfurique le soir. Et puis le matin, voilà le cristal qui est là. Ça nous est venu vers la dixième pointe. Il a descendu à la sombre. Par quadrature. Par contre, si la pointe de la dixième maison est mauvaise dans le fait, alors la nuit ne porte pas conseil. Et alors, le soir, on y voit très clair, et le lendemain matin, ça recommence. Chacun de nous peut faire cette expérience. Chacun de nous, par l'astrologie, par la psychologie de l'astrologie, par la combinaison, parce que la psychologie seule vous montrerait beaucoup de ces choses, mais l'astrologie introduit l'horaire du drame, l'horaire de la marche de ces choses. Alors, on peut essayer de dire les choses dans le mouvement. Alors là, vous entrez dans l'intimité du jeu de la vie, de votre vie, et vous augmentez votre sens de la valeur de la vie d'une façon multiplière. Et ça devient tellement intéressant que vous oubliez que c'est votre vie. Ça ne devient plus une vie personnelle. Vos sentiments personnels cessent d'être même personnels. Insensiblement, vous sentez que vous participez à une cadence cosmique grandiose et à un amour cosmique grandiose, et que votre intelligence reçoit et ne fait que vous recevoir d'une plus grande pour des buts supérieurs encore à tout, et que vraiment comme la Bible l'a dit, l'homme ne sait pas encore ce que l'amour de Dieu réserve pour lui. N'est pas l'hostilité de l'abîme et la différence. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Alors maintenant, pour finir cette petite leçon, voyez donc que ici est le Mercure, l'intelligence, le Soleil, ça c'est mon Soleil et mon intelligence, et puis j'ai la Lune. Alors ces trois, c'est moi. Dès que nous allons à Vénus et Mars, nous commençons en rapport avec ceci. Alors mettons ici le Mars et ici la Vénus, car Vénus est toujours terminale. Vénus est toujours le terme de quelque chose, c'est une situation terme. Mars est une situation initiale. Mars est toujours un départ. Alors mettons-le du côté oriental, mettons-le donc ici, c'est le départ d'un mouvement qui va s'étendre au point terme qui est la Vénus et qui marquera la limite de la forme de l'expérience. La limite de la forme de l'expérience. Et maintenant, vous avez l'axe de Jupiter, qui est l'axe central ici, c'est le mystère du Sagittaire, et c'est l'axe de Jupiter. Quand on parle de Jupiter, on parle toujours de cet axe-là, centre du cône, et passant du cœur même du principe de cristal, pour descendre à votre cœur à vous, et pour remonter à ça, par le principe jupitérien. Et alors, c'est le principe de croissance. Quand on pense que ces dix astres contiennent toutes les complexités de notre biologie, notre chimie personnelle, sans compter tout notre psychisme, qu'on doit pouvoir avoir un jour une astrologie qui pourrait repérer et arpenter les cellules de nos poumons, la plèvre, enfin tous nos organes, et repérer ça aussi mathématiquement que nous pouvons le faire, car je vous assure que quelquefois, on peut le faire avec une précision à la loupe sur le cheminement psychologique de l'individu. Ça, c'est un peu ma spécialité. Alors, je dois dire que là, je fais confession, je ne veux pas être trop modeste ici, je dois dire que cette science permet ça, la preuve c'est que dans une certaine mesure je suis capable de le faire, mais j'aimerais beaucoup pouvoir le faire aussi sur le plan physiologique. Non, on ne veut pas tout apprendre, on ne veut pas tout savoir. Je ne connais pas la médecine proprement dite, ça ne me permet pas de m'en mêler, alors j'envoie ça à un médecin. Je continue. Alors, maintenant vous avez le principe de croissance, mais dit c'est Jupiter, vous avez le principe maintenant de proportion. Car qui dit croissance dit résistance. Il y a un principe d'économie en jeu, donc un principe de proportion. Le principe de proportion, c'est le principe d'équilibre. Dès qu'il y a mouvement, il faut de l'équilibre. Il y a le discontinu qui doit toujours redevenir du continu. C'est le jeu du constant, du mouvant et du fixe et le rapport des deux. Alors vous avez là le sens des proportions et c'est Saturne. Et Saturne, maintenant je rentre dans des abstractions terribles, Saturne représente les côtés de ce cône. Soit ce côté-là, le principe de la forme, sa définition définitive géométriquement, c'est les côtés d'un cône. Le principe de la croissance, c'est le cœur même, c'est l'axe central du cône. Et enfin, le but de tout ça, la montée de tout ça, qui se répète d'ailleurs de pas à pas, c'est dans les cercles concentriques, c'est l'Uranus et le Neptune du Thème. Alors l'Uranus du Thème, lui, il a une fonction tout à part, qui ce n'est pas celle de Neptune. L'Uranus, c'est déjà l'acquis de toutes vos antiquités, de toutes vos antériorités, l'Uranus. C'est la crème de l'âme de vous-même que vous ne connaissez pas encore consciemment, qui vous est interceptée dans votre incarnation. C'est ça. Et voilà pourquoi il a pu être assimilé Uranus au bon berger, qui descend chercher la brebis perdue sur le pont du coteau. C'est pas Neptune qui fera. Neptune n'ira jamais chercher le berger, la petite brebis. C'est le but du sauveur, de cet élément du berger, du bon berger, d'aller, il est masculin, Uranus. Il entre dans la bagarre, Il va sauver son pupille. Il est le parrain. Il correspond à l'ange gardien dans l'Église catholique. Il est l'ange gardien. On peut toujours repérer par l'astrologie l'ange gardien. On peut démontrer que cette idée que le catholicisme a hérité de l'Antiquité n'est pas du tout une utopie ou une fantaisie, mais sa vérité, elle est là, on en repérera le mouvement. Comment peut repérer la position du Satan catholique avec la même précision? On en sait l'épicentre, on en sait le temps, on en sait la position de jour en jour. Et on peut marcher à fond, ça donnera toujours bien. Lisez le livre de Satan, publié il y a 6 ans par le Dominicain, un gros volume publié chez, par le Dominicain, par le Carmélitain, publié chez Béclair de Brouet à Paris. Lisez tous les documents psychiatriques, psychologiques, théologiques, métaphysiques, philosophiques, historiques. Là-dedans, c'est un gros volume, c'est merveilleux, et c'est toujours et toujours et toujours Pluton, 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 c'est pas d'autre chose. Jamais d'autre chose. Jamais d'autre chose. Par contre, prenez les thèmes de ça et vous verrez Uranus, Neptune, Uranus, Neptune, Uranus, Neptune, Jupiter et Saturne. Ça ne rattrape jamais. Voilà, c'est la montée. Alors, maintenant, j'ai fini ceci. J'ai toutes les planètes, j'ai le Neptune, l'Uranus, le Saturne. Saturne, il est marqué comme ça. Le Jupiter, il est marqué ici en vitesse, n'est-ce pas? Ceci, c'est très schématique. Il y a une forme géométrique spéciale à ces astres. Véa, Vénus, situation terme de la forme. Mars, situation initiale de la forme. Prince de l'attaque, la première attaque pour modifier. C'est lui qui rompt l'inertie. Et Vénus est le terme de la rupture d'inertie. C'est la rentrée dans une nouvelle inertie pour faire un nouveau départ. Ensuite, nous avons la Lune. Mais n'oublions pas maintenant, nous sommes dans le système terrestre. Nous sommes géocentrés. Sur la Lune, il n'y a rien. Alors la Lune, elle entoure le tout. Elle prend le tout. Car elle représente, oh, je peux parler de l'autre côté, mais elle entoure le tout. Tout ceci est à l'intérieur de l'ellipse lunaire. Qui est l'os, qui est la coquille de l'os, si vous voulez, qui porte à l'intérieur à tout l'espérance qui est à l'intérieur d'un os. Le poussin à venir. Nous sommes le poussin à venir. Voilà. C'est tout à l'intérieur. La Lune représente la limite de l'expérienceable. Alors, elle est au-delà de Pluton, parce que par Pluton, parce qu'elle va nous permettre de vivre une expérience plutonienne expérienceable. Donc elle est au-delà du Pluton, ça va de soi. Elle est au-delà du Neptune parce qu'elle va nous permettre de vivre une expérience neptunienne expérienceable. Elle est la limite de l'expérienceable. Et quand j'ai fait ce schéma, bref, je peux bien m'en excuser, mais ceci est beaucoup plus pour un cours privé plus court que pour une grande classe, comme celle-ci. Quand j'ai dit ça, j'ai mis tout ce qui est essentiel dans un thème astrologique. En comprendre la signification, les rapports, les fonctions ainsi, leur donner la vie d'un club, leur donner la vie d'un monastère, si vous voulez. Vous comprenez que quand vous avez une nonne, mais une nonne alors carmélitaine, c'est-à-dire une nonne de l'ordre le plus haut, les ordres contemplatifs, l'ordre strictement mystique, dont la vie intérieure est tellement animée par un courant que cette nourriture-là lui est toute la seule société qui lui suffit. C'est une telle langue intérieure qui lui est parlée. Elle a besoin de toutes ces énergies pour prêter attention à cette langue intérieure qui lui parle. Voilà la vocation carmélitaine. J'ai parlé en Californie, au Mont Carmel de Californie, à des sœurs du Carmel de là-bas, et elles m'ont bien voulu me raconter quelques-unes de leurs expériences derrière leur rideau, car on ne les voit pas. Elles sont entièrement séparées du monde. Et c'est une façon pour elles, eh bien, écoutez, c'est très simple. ces braves, ces gens-là, qu'ils soient hommes ou femmes, ce sont des thèmes de 12e maison astrologique. Vous avez là un stellium considérable de planètes. Vous avez là quelque chose qui échauffe ça tout le temps, qui lui donne la résonance, c'est la Lune. Il va lui donner une résonance telle qu'ils vont entendre les voix invisibles et sentir les présences invisibles sur l'horizon, sur la verticale de leur croix, venir au niveau de leur horizontal. Les ruptures de niveau vont se faire constamment, mais d'une façon presque harmonieuse, de sorte qu'ils ne peuvent pas vivre sur la Terre, ils n'ont pas le ciel, ils s'entendent pour les deux. Ça, c'est une 12e maison, c'est formel. Eh bien, voilà, on ne va pas seulement dire, ah, vous comprenez, ils ont 3 ou 4 planètes là-dedans, c'est des planètes étapantes, c'est des planètes étapantes. Et là, on a réduit ça seulement à un langage horriblement vulgaire. Vous prenez Jupiter là-dedans, il y avait Saturne. Et puis, il y avait des plumes là-dedans, n'est-ce pas? Attention, c'est des mots sacrés qu'ils ont collés. Dire qu'ils ont ça là, c'est qu'ils ont des lignes téléphoniques qui sont formidables. C'est qu'ils sont liés à des personnalités qui leur parlent. C'est que leur monde intérieur s'agrouille de vie. Et la 12e maison veut 10 fois l'ascendant. Voilà. Là, il faut que je m'arrête là ce soir. Il est déjà 11h moins un quart. J'espère que vous n'avez pas retenu très longtemps. Alors je rappelle pour que c'est jeudi demain en 8. Et j'invite qui voudra le faire, qui se pousse, qui se trouve démangé de questions, s'il veut se donner la peine de me les écrire à l'hôtel où je suis, l'hôtel d'Albion, le 15 rue de Franquière, seulement les questions qu'ils aimeraient poser, et si je puis, dans un certain cadre logique, y répondre publiquement, je le ferai avec grand plaisir. Est-ce que j'ai rendu clair certaines choses sur l'astrologie ce soir? Hein? Pensez-vous, mademoiselle Morée? Oui, oui, oui. Oui, c'est lundi soir. Oui, oui, c'est ça, j'ai marqué ça, je vous le dis. Non, ce vendredi soir, c'est vous qui m'aviez dit que vous ne pouviez pas, n'est-ce pas?